والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. دونك شيخ فغان الله عز وجل مرحبا بكم جميعا. Bienvenue à tous. Bienvenue aussi à nos sœurs qui nous écoutent du côté des sœurs. Et en fait, le dars qu'on a dit, ou en tout cas, on s'entraide au rappel par rapport aux étrangers, le Ghuraba. Alors, je crois que le titre qu'on avait donné, c'était les étrangers, leurs caractéristiques, leurs difficultés, ainsi que leurs récompenses. J'ai choisi comme livre l'I'tisam de l'imam Shatibi, rahimahullah ta'ala. On a fait la transition avec le dars de tout à l'heure, de Kitab Shari'a de l'imam Ajuri, rahimahullah. Et on va pas faire une biographie de l'auteur, mais je vous recommande d'aller voir sa biographie, inshallah. En tout cas, il est mort en 790 de l'Hijra, rahimahullah. L'imam Shatibi, Abu Ishaq Ibrahim بن موسى بن محمد الغرناطي الشاطبي رحمه الله تعالى. الاعتصام c'est un livre que les mashaykh qui expliquent, c'est un livre qui est soutenu au niveau de la langue arabe, parce que l'auteur رحمه الله il était très éloquent, et vous allez le constater dans un instant inshallah. Pourquoi j'ai choisi ce livre? Parce que c'est ça le sujet du cours en fait, parce que au début du livre l'imam الشاطبي رحمه الله il fait une muqaddima. Dans la muqaddima, il fait les éloges d'Allah Azzawajal, bien sûr. Il loue Allah subhanahu wa ta'ala. Puis ensuite, il fait salat wa salam ala Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam, d'une manière très éloquente. Et ensuite, il rapporte les textes sur le Ghuraba, les étrangers. Puis ensuite, il explique, vous connaissez sûrement certains riwayats, comme « Inna l'islam a bada'a ghariban ou si'a'udu ghariban kama bada'a » « L'islam a commencé étranger, il reviendrait étranger comme il a commencé ». Et puis il explique, mais ça on n'ira peut-être pas jusque-là parce que c'est un livre qui est en deux volumes, mais il explique en fait comment la da'wah du prophète sallallahu alayhi wa sallam a commencé, comment il était étranger et pourquoi il était étranger. Et à quel niveau il était étranger parmi les, à l'époque de la jahiliya et les sahaba qui étaient avec lui. Et on sent dans la parole de l'imam, etc., que c'est comme si on peut sentir le contexte dans lui lequel il était aussi. Et après il va rapporter lui son étrangeté à lui, à son époque à lui. Et qu'est-ce qu'on doit dire, nous, à notre jour d'aujourd'hui, à notre époque-ci? Comme ça, vous avez le fil, en fait, et la raison pour laquelle... C'est un livre très intéressant. Donc, le Mu'alif, rahimahullah, il dit, l'imam Shatibi, « Alhamdulillahi al-mahmoud ala kulli hal, alladhi bihamdihi yustaftahu kulli amrin dibal. » Ça, vous, le frère qui connaissez le hadith, il fait référence à quoi? À un hadith ici. Quel est le hadith? Kullu? Il y a plusieurs riwayats, mais donne-moi une. Une autre riwaya? Ah, au stade, hein? Je t'ai dit. Ajdam, Aqta. C'est Annie que c'est. Naqas al-Baraka. Non. On reviendra là-dessus après, Inch'Allah. خالق كل شيء خالق الخلق لما شاء ميسرهم على وفق علمه وإرادته لا على وفق أغراضهم لما سر وساء ومصرفهم بمقتضى القبضتين فمنهم شقي وسعيد. Encore une fois référence à un hadith, قبضتين, par rapport au qadr. On va revenir, très intéressant ce hadith. وهداهم النجنين, référence à quoi? وهديناه, verset du Coran. فمنهم قريب وبعيد ومسويهم على قابل الهامين ففاجر وتقي. référence à quoi? الالهامين فالهمها فجورها وتقواها, verset du Coran. كما قدر ارزاقهم بالعدل على حكم الطرفين ففقير وغني كل منهم جار على ذلك الاسلوب فلا يعدو فلو تمالؤوا على ان يسد ذلك الفتق لم يسدوه أو يرد ذلك الحكم السابق لم ينسخوه ولم يردوه فلا إطلاق لهم على تقييده ولا انفصال ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. On va déjà traduire cette première partie là. Vous avez dit que son arabe il était soutenu et que c'était quelqu'un de très éloquent, rahimahullah ta'ala. L'imam Abu Ishaq Ibrahim bin Moussa bin Mohammed al-Gharnati al-Shatibi rahimahullah, décédé en 790 de l'Hijr, qu'Allah lui fasse miséricorde, il dit dans l'introduction de son ouvrage Al-I'tisam, qu'on peut traduire par le fait de se cramponner. cramponnement. D'ailleurs, il y a un des livres de la Sunna les plus connus du hadith qui a un chapitre qui s'appelle I'tisam. C'est le livre de qui? Pas toi, Ostad, non, quelqu'un d'autre. Personne? Ostad? Bukhari? Sahih al-Bukhari? Non, mais je ne parle pas d'un livre à part, je parle d'un livre de hadith, le Ummahat. Il y a un nouveau machir contemporain qui expliquait ce chapitre, c'est qui? Shu'aubid, rahimahullah. Il dit, toutes les louanges reviennent à Allah subhanahu wa ta'ala, qui est loué pour toute situation et pour tout état. Lui, par les louanges duquel toute chose importante est commencée. Et là, il fait référence à un hadith. Kullu amrin diba la yubda'u fihi bi bismillahir rahmanir rahim fa huwa aqta'. Ce hadith, toute affaire ayant une importance mais qui ne commence pas par bismillahir rahmanir rahim est diminuée dans sa baraka. Ce hadith, il a été jugé faible par Cheikh Al-Albani rahimahullah dans Irwa al-Ghalil, hadith numéro 1. Ça, vous savez, Inch'Allah. Le créateur de toutes les créatures pour ce qu'il a voulu. Celui qui leur facilite ce qui réjouit et ce qui afflige en fonction de quoi? De sa science et de sa volonté. Quand on parle de la science d'Allah Azzawajal, on parle toujours de la perfection de la science, évidemment. Comme on parle de la perfection de la sagesse d'Allah Azzawajal, etc. Il y a une règle dans l'asma al-sifat. Quand tu nies une sifa, qu'est-ce que tu dois attribuer à l'opposé ou en face? Par exemple, Allah Azzawajal, on dit qu'Allah Azzawajal, il n'est pas injuste, subhanahu wa ta'ala. Nenfi Allah Azzawajal, sifat dhulm. Sah ou lala? D'accord? Mais qu'est-ce qu'on doit madan uthbit bi muqabil dhalik? C'est pas la justice, c'est la perfection de la justice. Kamal l'adl, subhanahu wa ta'ala. Celui qui leur facilite ce qui réjouit et ce qui afflige en fonction de sa science et de sa volonté, non pas en fonction de leurs desseins à eux ni de leurs objectifs personnels. Celui qui les traite en fonction de ses deux poignées, certains malheureux, certains bienheureux. Alors, c'est un hadith qui est long, mais la partie qui nous intéresse ici, quand il dit par les deux poignées, le qabdatayn. An Allah Azza wa Jal qabada qabdatan qala fa qala fil jannati bi rahmati. وقبض قبضة وقال في النار ولا أبالي. Hadith jugé authentique par Cheikh Al-Albani rahimahullah avec plusieurs versions, etc. Si vous voulez, je vous donne la référence, c'est volume 1, page 112 de Silsila Hadith Sahiha. Que Allah Azza wa Jalla a certes pris une poignée, c'est-à-dire de gens, et a dit au paradis par ma miséricorde. Et il a pris une autre poignée de gens et a dit en enfer et je ne m'en préoccupe pas. ولا أبالي. Quelqu'un il a demandé au messager d'Allah, à ce moment-là, en fonction de quoi ferons-nous nos actions? Il répondit, Allah, lorsqu'il crée un homme pour le paradis, il lui fait faire les actions des gens du paradis. Jusqu'à ce qu'il meure sur une action parmi les actions du gens du paradis. Et donc il y entre. Ça, c'est l'explication du prophète, ça. Hein? Lorsqu'il crée un homme pour l'enfer, il lui fait faire les actions des gens de l'enfer jusqu'à ce qu'il meure sur une action parmi les gens, les actions des gens de l'enfer. Et donc il y entre. Et Allah subhanahu wa ta'ala les a guidés vers les deux voies, sans référence au verset « Wahadaynahu ». Najdain, nous ne l'avons-nous pas guidé aux deux voies? Surat al-Balad, verset 10. Certains seront rapprochés et certains seront éloignés. Celui qui les a créés, capable d'accepter les deux inspirations. Et donc certains sont débauchés, immoraux, et d'autres sont pieux. En référence quoi ici les deux inspirations? Fa'alhamaha, fujuraha, wa taqwaha. Il lui a alors inspiré son immoralité de même que sa piété. Ash-Shams, verset 8. Comme il a prédestiné sur leur subsistance, subhanahu wa ta'ala, avec équité, pour le jugement des deux parties, les pauvres et les riches. Subhanahu, quand je lis ça ici, c'est tellement profond ce qu'il dit à chaque partie de phrase que c'est peut-être un dars à chaque morceau de phrase. Rien que ce qu'il vient de dire ici, ça, c'est un dars complet, c'est au plusieurs duros. Ce qu'il a dit sur la subsistance. Et l'équité d'Allah Azzawajal dans cela. mais sur le fait d'être faqir et d'être ghani. Hein? Par exemple, Cheikh Mashir, ils disent, quand ils ont expliqué ces lignes-là, ils ont dit, par exemple, le fait que quelqu'un soit ghani, c'est pas nécessairement une makrama, c'est pas nécessairement quelque chose par lequel Allah les a honorés. Et le fait que quelqu'un soit pauvre, c'est pas quelque chose par lequel Allah a humilié ces gens-là, ou les a rendus hein, plus moindres, si vous voulez. Non. C'est pas comme ça que ça marche. L'individu, il est la subsistance en fonction de la perfection de la sagesse, la perfection de la science d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'ailleurs, les Mashir disent que certaines personnes qui sont pieuses, s'ils n'étaient pas riches, elles ne pourraient pas être pieuses. Allah les a fait riches pour qu'ils puissent être pieux. Et d'autres qui sont pauvres et qui sont pieux, ils n'auraient pas pu être pieux s'ils n'étaient pas pauvres. Mais ça, c'est encore un... Mais c'est des sujets intéressants. C'est des sujets très intéressants. Donc, Allah Azzawajal a prédestiné leur subsistance avec équité pour le jugement des deux parties, les pauvres et les riches. Vous vous rappelez qu'on a fait le Nasih al-Waladiyah? Qu'est-ce qu'il a dit que l'imam... Comment il s'appelle? Al-Baji. Oh, vous n'avez pas oublié, alhamdulillah. Al-Baji, rahimahullah. Abu al-Walid, hein? C'est ça, Abu al-Walid, non? Non? Vous avez oublié tout le nom, maintenant. Vous vous rappelez Al-Baji? Moi, Al-Baji. Qu'on a dit que... Il a dit quoi sur la personne qui est avare? Il parlait des mauvaises caractéristiques, il parlait de l'avarice. Vous vous souvenez de ce qu'on a dit par rapport à l'avarice? Il avait dit une belle parole. Il a dit l'avare, il vit la vie des pauvres, mais il est châtié du châtiment des riches. Ce qu'il a, mais il ne veut pas. Il ne veut pas dépenser. Puis ensuite, il dit... Rahimahullah ta'ala. Tous vivent en fonction de cela et ne peuvent rien y changer. Rien y changer. S'ils se regroupaient tous pour fermer cette fente, al-Fataq, ils n'y arriveraient pas ou repousser ce décret qui a précédé, ils ne pourraient ni l'abroger ni le repousser. Ils n'ont aucune capacité de le restreindre ou de s'en séparer. Allah Azul de Trioul dit, selon la traduction du sens est, et c'est à Allah que se prosterne bon gré mal gré. C'est qui se prosterne envers pour Allah Azzawajal, bon gré. C'est le mu'minoun. Mais les autres, ils se prosternent aussi, mais malgré. Kurah, hein? Karhan. Taw'an ou karha. Ici, le verset, on l'a cité. Wallillahi yajudu man fi samawati wal ardi, taw'an wa karha, wa dhilaluhum fil ghudoui wal asal. Dil ghudoui wal asal. Et c'est la traduction du sens. C'est à Allah que se prosternent bon gré malgré tous ceux qui sont dans les cieux et sur la terre, ainsi que leurs ombres, au début et à la fin de journée. C'est surat Ra'd, verset 15. Puis il fait salat au salam à Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam, il dit que les éloges d'Allah auprès de ses anges rapprochés, c'est la meilleure manière de traduire salat à la Rasul sallallahu alayhi wa sallam, et ses salutations soient sur Mohammed le prophète, de la miséricorde, celui qui a dissipé le chagrin. Qu'est-ce que ça veut dire celui qui a dissipé le chagrin? Il a dit « Kachafa bi ba'tatihi Allah azza wa jalla bi ba'tatihi l'ghumma » C'est-à-dire que Allah Azza wa Jal en l'envoyant, celui par l'envoi duquel Allah le trouve a dissipé le chagrin et la tristesse et l'angoisse pour toute l'humanité. Celui dont sa législation a abrogé toutes les législations qui ont précédé et dont l'appel a englobé toutes les communautés. Wa salatu wassalam ala sayyidina wa maulana Muhammadin Nabi Rahma. كاشف الغمة الذي نسخ شريعته كل شريعة وشمل دعوته كل أمة فلم يبق لأحد حجة دون حجته ولا استقام لعاقل طريق سوى لاح بمحجته وجمعت تحت حكمتها كل معنى مؤتلف فلا يسمع بعد وضعها خلاف مخالف ولا قول مختلف فالسالك سبيلها معدود في الفرقة الناجية والناكب عنها مصدود إلى الفرق المقصرة أو الفرق الغالية. Donc il fait les éloges, les salutations sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que ses adeptes et ses compagnons qui ont suivi la guidée de son soleil éclairant et ont suivi ses traces apparentes. Non, le prophète de la miséricorde est celui qui a dissipé le chagrin, ça on a déjà dit, celui dont sa législation a abrogé toutes les législations et dont l'appel a englobé toutes les communautés. Personne donc n'a de preuve en dehors de sa preuve. Et aucun chemin ne tient la route pour toute personne douée de raison que celui de l'amour de sa voix. Sa législation a regroupé Vous avez compris, c'est le mot lahiba. C'est quoi lahib ici? C'est le tariq le wadih. Puis il a dit lahibi mahajati. Sa législation a regroupé sous sa sagesse tout sens harmonieux et cohérent. Et donc on ne peut entendre après son établissement la divergence d'un transgresseur ni une parole incompatible disharmonieuse. Il dit, celui qui donc qui emprunte sa voix, la voix du prophète alayhi salam, est compté parmi les gens du groupe sauvé. Allahu Akbar. Les gens d'innovation se moquent de nous. Ça, sahab le groupe sauvé. On est tous en enfer sauf eux. Déjà, les mashiach, quand ils parlent de hadith l'iftiraq, quand ils disent kulluha fi nar illa wahida, ça veut pas des non-sous al-wa'id. Ça fait partie des textes de menace. C'est-à-dire que tu es menacé de l'enfer. Ah, mais qui est en enfer et qui ne l'est pas, ça revient à ilm Allah Azza wa Jal. Donc ici, il a dit, celui donc qui emprunte sa voie est compté parmi les gens du groupe sauvé. Quant à celui qui en dévie est repoussé vers les sectes laxistes ou les sectes extrémistes. On va peut-être rapporter tout à l'heure une parole d'Ibn Qayyim sur les deux extrêmes. Vous voyez que les gens, ils sont soit sur le juste milieu que la sunna, c'est-à-dire que les gens de la sunna, ils sont le juste milieu entre tous les groupes qui s'affilient à l'islam. Comme l'islam est le juste milieu entre toutes les religions. Et qui dévie de ce milieu, ou si vous voulez, à l'extrême de ce milieu, il a deux extrêmes. Il a le laxisme et l'extrémisme. Et comme Ibn Qayyim rahimahullah, il a montré dans certains de ses ouvrages, quand Shaitan il voit que quelqu'un, il est haris ala al-khair, il le pousse vers l'extrémisme. Quand c'est quelqu'un qui est mutadayyin et qui a une certaine pratique, une certaine ibada, etc., il le pousse vers l'extrémisme. Et quand il voit que c'est quelqu'un qui est faible, il le pousse vers les péchés, le laxisme, etc. Et souvent dans certaines sectes, vous voyez, ils ont les deux. Et ça, c'est la hala de beaucoup d'al-bida envers les salafis. Tu le vois, laxiste et doux envers les mukhalifin, al-bida, les autres, et tu le vois très dur envers les gens de la sunna. Pour ça, Cheikh Rabi, dans certains de ses ouvrages, il disait, on fait face à un monstre à deux têtes. Qui est le laxisme et l'extrémisme. Il laxiste envers Al-Bida'a, extrême avec les gens de la Sunna. Donc on a dit ici, on parlait d'extrémisme, que les éloges d'Allah auprès de ses anges rapprochés et ses salutations nombreuses soient sur le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que ses adeptes et ses compagnons qui ont suivi la guidée de son soleil éclairant, sallallahu alayhi wa sahbihi alladhina ihtadaw bi shamsihi al-munira. واقتفوا آثاره اللائحة وأنواره الواضحة وضوح الظهيرة وفرقوا بصوارم أيديهم وألسنتهم بين كل نفس فاجرة ومبرورة وبين كل حجة بالغة وحجة مبيرة وعلى التابعين لهم على ذلك السبيل وسائر المنتمين لذلك القبيل وسلم تسليما كثيرا. Il dit que les éloges d'Allah auprès de ses anges rapprochés et ses salutations nombreuses soient sur le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que ses adeptes et ses compagnons qui ont suivi la guidée de son soleil éclairant et ont suivi ses traces apparentes et ses lumières claires de la clarté de la mi-journée, du midi. Ils ont séparé du tranchant de leurs mains et de leur langue entre toute âme turpide et toute âme pieuse et entre toute preuve éloquente et toute preuve perdue, ainsi que sur ceux qui les ont suivis avec excellence sur cette voie et tous ceux qui s'affilient à ce groupe. Ceci étant dit, regardez que le Mashiach dise, regardez l'uslub d'Ahl Sunnah, l'uslub de cet imam, comment il te parle, yatalattaf ma'ak, yatalattaf ma'al qari. Amma ba'du, ceci étant dit, fa inni udhakkiruka ayyu as-sadiqu al-awfa wal-khalisatu al-asfa في مقدمة ينبغي تقديمها قبل الشروع في المقصود وهي معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء. Il te dit فإني أذكرك. C'est un imam qui te parle il y a combien de siècles maintenant. Il te dit je te rappelle mon frère en Allah Azza wa Jal. Il te dit comment il te caractérise. Il te dit أيها الصديق الأوفى. Toi, mon ami le plus honorable. Et toi, mon bien-aimé le plus pur. Pourquoi? Il te fait ça pour que tu sois prêt à écouter ce qu'il va te dire. Et c'est une méthodologie suivie chez nous, ulama. I'lam, rahimakallah. Sache qu'Allah te fasse miséricorde. Il y a talat taf. Il ne faut pas être dur avec les gens. La base dans la sunna, ce n'est pas la dureté. La dureté fait mahalliha. Le hazm, le fait d'être strict, c'est à ça sa place. Mais ce n'est pas la base en da'wah. Il dit, « Oh, toi, mon ami le plus honorable et mon bien-aimé le plus pur, je te fais le rappel dans une introduction qu'il convient de faire avant d'entrer dans le vif du sujet. » Et c'est ça la traduction qu'on va. C'est le sujet du cours, c'est le Ghuraba. Et c'est le sens de la parole du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. L'islam a commencé étranger. Il va redevenir étranger comme il a commencé. Touba, donc, pour les étrangers. Touba, je ne vais pas vous le définir maintenant. On va revenir tout à la fin du cours, inchallah. On va laisser Touba maintenant. Et différents quoi, les ulama, je vais prendre une belle parole du Cheikh l'Albani par rapport à ça, rahimah. Touba, donc, pour les étrangers. Il fut alors dit, « Qila, wa man hum al-ghuraba, ya Rasulallah. » Et qui sont donc les étrangers au messager d'Allah? Regardez le hirs des sahaba, comment ils voulaient savoir le khair. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit une récompense grande pour ces ghuraba. Donc les sahaba, ils veulent savoir c'est qui ces ghuraba. Il a dit, « Qala, alladina yuslihuna inda fasadin nas. » Il y a plusieurs riwayats, on va les rapporter tout à, au fur et à mesure du cours, inshallah. En tout cas, celles qui sont authentiques. « Alladina yuslihun. » Ceux qui réforment lorsque les gens sont pervertis. Dans notre riwaya, alladina yasluhun. Ceux qui sont vertueux en eux-mêmes. Et les ulama, ils ont dit, regardez, parmi les caractéristiques des ghuraba, voilà, le sujet, c'est les caractéristiques des ghuraba, c'est qu'ils sont vertueux en eux-mêmes et qu'ils réforment autrui. Yasluhun wa yuslihun ghayrahum. Ils sont ceux qui réforment lorsque les gens sont pervertis. Par rapport au talatouf qu'on a dit tout à l'heure, quand il a fait la, il a dit ayyuhas sadiqu al-awfa, hein, wal khalisatu al-asfa. Certains mashir, ils ont dit, il fait le rappel à son ami, c'est-à-dire le lecteur, par ce hadith, afin qu'il se prépare, hadith ghuraba, afin que toi, mon frère, tu te prépares pour ceux auxquels tu vas devoir faire face de la part de tes ennemis. Pour que ça t'aide. Parce que tu vas te sentir rarib. Tu vas sentir cette ghurba. Si tu es sur la vraie sunna pure. Walakin touba l'ghuraba. Un autre point, vous avez remarqué que il n'a pas cité de hadith. On est d'accord. Il a cité un verset. Mais il n'a pas cité de hadith. C'est le premier qui cite. Le premier qui cite dans son livre, c'est ce hadith-là. Et c'est comme si tu ressentais le climat dans lequel vivait cet imam, en fait. Quand il... c'est... Alors, qu'est-ce que nous, on va dire aujourd'hui? Aujourd'hui, on est en 2026, ou plutôt en 1448. Ça, c'est une habitude que... Mais certains mashaykhs ont même fait des khutbah de Jumu'ah là-dessus. C'est que nous, en tant que musulmans, en tant que Jalla Sunna, on doit utiliser le taqwim al-hijri. Tu peux connaître l'autre. Mais nous, on commence l'autre, on dit correspondant à l'Hijri. Non, c'est le contraire. C'est l'Hijri correspondant au grégorien. Donc, quand tu demandes à un frère son âge, il te dit toujours son âge grégorien. Il ne te dit jamais son âge Hijri. Il est marhamallah. Vous savez qu'à partir de 36 ans, là, vous avez un an en plus, les frères, en Hijri. Tu ne peux pas te vieillir ou la shihaja, là. Hein? Parce qu'il y a une différence entre les deux, bien sûr. La base du hadith qu'on vient de citer, Asluhu fi sahih Muslim. La base du hadith, c'est dans l'authentique de l'imam Muslim, d'après Abu Huraira. L'islam a commencé étranger, il redeviendra étranger, comme il a commencé Touba, donc pour les étrangers. Et même Ahmed, rahimahullah, il a rajouté, et cela a été jugé authentique par Cheikh l'Albani, rahimahullah, peu de gens parmi beaucoup de gens. Unasun qalilun salihun fi unasin kathirin. Ou bien il a dit, Unasun qalilun. في أناس كثيرين من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم. Ceux qui leur désobéissent sont plus nombreux que ceux qui leur obéissent. Ne vous inquiétez pas, à la fin, tout à la fin du coup, on va revenir sur tout ça, Inch'Allah. Et comme je l'ai dit dans une autre version du hadith, ce sont ceux qui sont vertueux lorsque les gens sont pervertus. الذين يصلحون عند فساد الناس أو إذا فسد الناس. وفي رواية سليمان الشاطبي كيبا رحمه الله قيل ومن الغرباء يا رسول الله؟ قال النزاع من القبائل. Certains, ils ont expliqué nuzza' afrad qala'il min al-qaba'il, des gens peu de différentes tribus, un peu de chaque tribu. La caractéristique des ghuraba, c'est quoi? C'est le petit nombre. Mais ce terme-là, nuzza', et peut-être ça va vous toucher plus, inshallah, après vous allez comprendre pourquoi, à la fin du cours, on reviendra là-dessus, inshallah. Hein? C'est pas pour faire du suspense, les frères, c'est juste pour que le dars il ait sa cohérence. D'accord? Une des caractéristiques des gens de la vérité, c'est qu'ils sont peu. Et justement, le Cheikh Obed, rahimahullah, notre Cheikh Obed, rahimahullah, il disait toujours une belle parole, il dit « Alika bi turqil huda walaw qila salikun » Suis les voies de guidés, même si le nombre de gens qui les empruntent est peu. « Wa iyyakum at-turuq ad-dalal walaw kathura al-halikun » Et faites attention aux gens de l'égarement, aux voies de l'égarement, et ce même si le nombre de déviants, de perdants, qui les prennent sont nombreux. C'est une parole de salaf, ça aussi, c'est une parole de certains anciens imams. Cheikh l'imam Shatibi, rahimallah, il dit « وَهَذَا مُجْمَلٌ لَكِنْ مُبَيَّنٌ فِي الرِّوَيَةِ الْأُخْرَى » Il dit ceci, et général, mais c'est expliqué dans l'autre version, « نُزَّعْ مِنَ الْقَبَائِلِ » وجاء من طريق آخر بدأ الإسلام غريبا ولا تقوم الساعة حتى يكون غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء حين يفسد الناس. Dans une autre narration aussi, une autre version, l'islam a commencé étranger. Il redeviendra étranger comme il a commencé. Ou plutôt, l'islam a commencé étranger et la dernière heure n'arrivera pas tant qu'il ne redevienne étranger comme il a commencé. Hatta taqum as-sa'a. Touba donc aux étrangers lorsque les gens sont pervertis. Hina yafsudu an-nas. وفي رواية لابن وهب قال عليه الصلاة والسلام طوبى للغرباء الذين يمسكون بكتاب الله حين يترك ويعملون بالسنة حين تطفى. Dans la version d'Ibn Wahb, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit طوبى aux étrangers, ceux qui se tiennent au livre d'Allah lorsqu'il est délaissé et pratiquent la sunna lorsqu'elle est éteinte. وفي رواية إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء قالوا يا رسول الله كيف يكون غريبا قال كما يقال للرجل في حي كذا وكذا إنه لغريب. Encore une fois, ça va peut-être vous toucher personnellement ça, qu'on va revenir après, inshallah. C'est quoi ici? C'est l'islam a commencé étranger, et il va redevenir étranger comme il a commencé, tauba pour les étrangers. Ils dirent, ya Rasulallah, ô messager d'Allah, comment il sera étranger l'islam? Il répondit, comme il est dit à l'homme qui vit dans tel quartier, il est certes étranger. Comme un homme étranger qui s'installe dans un quartier où il n'est pas connu. Ou dans une ville ou dans un pays où il n'est pas connu. Vous devinez déjà le sujet d'après, inshallah. Dans une autre version, وفي رواية أنه سئل عن الغرباء قال الذين يحيون ما أمات الناس من سنتي. الله أكبر. Ceux qui revivifient ce que les gens ont fait mourir de ma sunna. Fin de citation de l'imam Shatibi, rahimahullah ta'ala. On va sortir un peu de l'i'tisam. Mais avant de sortir de l'i'tisam, je voudrais que, je ne sais pas si les frères ont le texte devant eux, regardez la page suivante. Il dit وجملة المعنى في من جهة وصف الغربة ما ظهر بالعيان المشاهدة في أول الإسلام وآخره. وأن ذلك أن الرسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه الله تعالى على حين فترة من الرسل وفي جهلة جهلاء لا تعرف من الحق رسما ولا تقوم له في مقاطع الحقوق حكما بل كانت تنتحل ما وجدت عليه آباءها وما استحسنته أسلافها من الآراء المنحرفة والنحل المخترعة والمذاهب المبتدعة. Qu'est-ce qu'il fait là? Il revient à la sirah du prophète صلى الله عليه وسلم. Dans quel contexte le prophète صلى الله عليه وسلم est arrivé? Après une période où il y a d'interruption de messagers. Et la ghurba qui est arrivée à ce moment-là, il rapporte en chaque point comment le prophète صلى الله عليه وسلم était gharib. C'est vraiment très intéressant. Inch'Allah, Hassan et Abdelaziz qui sont là autour, il ne faut pas que je parle trop. Inch'Allah, on aura l'occasion de revenir là-dessus, sinon ils vont m'attraper, ils vont me dire, ah, d'abord tu dois revenir. Voilà, vraiment, c'est pour les frères qui ont l'arabe, vous n'avez pas besoin de qu'on vous fasse ça en français. Essayez d'aller lire ça. C'est vraiment très intéressant. Et quand il va terminer la ghurba de l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de Sahaba, il va porter la ghurba à lui, à son époque, à lui. Et il va d'abord remercier Allah Azzawajal de l'avoir guidé à l'haq et d'avoir permis d'apprendre les sciences de la charia, etc. Et que c'est ça qui va l'amener à la ghurba, parce que lui connaît la sunna. Et qu'il y a des choses qui se font autour de lui qui ne sont pas de la sunna. Donc on va sortir un peu de l'Iqsam Shatibi. Et vous savez que j'aime beaucoup Cheikh Al-Albani, rahimahullah ta'ala. Et on va rapporter un peu ce que Cheikh Al-Albani, rahimahullah, il a dit par rapport à ce hadith et à ce contexte, à ce texte, à ce sujet de l'ghuraba. Il nous explique, rahimahullah ta'ala, par rapport au fait de Touba. On a dit qu'on allait laisser pour après. C'est quoi Touba? Quand on rapporte Touba, Cheikh Al-Albani, rahimahullah, il explique le terme que son explication est dans les textes. C'est-à-dire que c'est un texte où il y a un terme, et ce terme est expliqué dans d'autres textes. Car c'est expliqué par le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dans certains textes authentiques. Touba, c'est un arbre au paradis, sous l'ombre duquel, si celui qui est sur une monture devait avancer, il pourrait avancer pendant une période de 100 ans, sans jamais sortir de l'ombre de cet arbre. Comme le Cheikh Rizzo a expliqué, c'est-à-dire l'ombre, Charles Ben Yumi l'a dit, l'ombre des branches de cet arbre. D'autres machines, ils ont expliqué comme étant un shajaratun fil jannah, on parle d'un arbre au paradis. Hein. Ou bien ils ont expliqué comme le jannah, etc., etc. Mais ces explications reviennent à quoi? Al farah wa sur wa sa'ada fi darain. C'est-à-dire que quand tu t'attaches à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et que par cela tu deviens gharib, tu deviens étranger parmi les autres, eh bien tu as déjà une joie dans ce bas monde, et tu as, bi'idhnillah ta'ala, une joie et une récompense dans l'au-delà. Pourquoi? Parce que quand tu es gharib, tu es gharib pourquoi? Tu sais pourquoi tu es gharib. Si on te regarde parce que tu portes la barbe, parce que tu portes la sunna, etc., tu dois te sentir bien. Peut-être que la personne est ignorante, ou même si elle déteste cela, hein, surtout dans d'autres pays, etc., où on regarde les musulmans d'une certaine manière, surtout qu'ils pratiquent la sunna, toi tu sais pourquoi tu le fais. Tu ne suis pas une mode, tu ne suis pas une tendance, un algorithme sur internet qui le lendemain échange. Toi tu suis des textes légiférés. Tu fais ça en cherchant la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça c'est un goût ça. Ça a une saveur. Tu sais pourquoi ta moustache elle est comme ça. Tu sais pourquoi ta barbe elle est comme ça. Tu sais pourquoi ton taqsir de ton thawb il est comme ça. Tu sais pourquoi tu fais les choses. Parce que tu suis la sunna du prophète, alayhi salatu wassalam. Parce que tu as une identité basée sur les textes. Et que toi, tu sais pourquoi tu es. Tu as asl adim, c'est ce qu'Allah te l'a révélé. Et c'est le fait que tu adores Allah subhanahu wa ta'ala de la manière qui est légiférée. Pas selon les passions, ou selon les désirs, ou ce que les gens ont innové, etc. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, donc, il a annoncé ce qu'on appelle Bashara. C'est un tibshir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a été envoyé comme Mubashira, Mwanadira, comme annonciateur et avertisseur. Et c'est ça, les gens de la sunna rapportent toujours les textes de l'Wa'ad et les textes de l'Wa'id. Les textes de promesses et les textes de menaces. C'est pas comme les Khawarij font que les menaces et le Murji'a font que les promesses. C'est pour ça que les Al-Sunna disent, les ulama disent qu'Al-Sunna yajma'ouna bayna nusus al-bab. Donc chaque chapitre de la religion, les seuls qui regroupent tous les textes pour comprendre cette mes'ala, c'est les gens de la Sunna. D'ailleurs, ils rapportent ces textes avant d'établir une croyance. Et pas ils établissent une croyance et ils cherchent à rapporter les textes, des textes qui étaye cette croyance innovée. Al-Sunna yastadillun, thumma ya'taqidun. Al-Bida ya'taqidun, thumma yastadillun. Les gens de la Sunna, ils argumentent, ils travaillent les arguments, et là-dessus, ils basent leur croyance. C'est pas qu'ils croient quelque chose et puis ils essaient d'argumenter sur leur croyance. Donc le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a donné cette bonne nouvelle aux étrangers. Donc il ne faut pas être triste, il ne faut pas être affligé. Il faut être content, il faut être joyeux de pouvoir être dans cette ghurba. Tu fais partie, bi'inillah ta'ala, du peu de gens qu'Allah a choisi pour être dans cette ghurba. tu es sur cette istiqama, comme on est dans le premier dars, qui est un don divin. C'est un don, ça. Allah, il te l'a donné. Maintenant, qu'est-ce que tu fais, toi, avec ce don? Comment tu le remercies? Comment tu essaies de le préserver, ce don-là? Ces étrangers ne sont pas ceux qui s'accrochent à leur religion, que leur religion soit authentique ou déviante. Non, on ne parle pas de ça ici. Il convient donc de bien identifier, cher l'Albin, rahimallah, qui sont ces étrangers. Maintenant, on va parler des caractéristiques des Ghuraba. Et ce, regardez, regardez la méthodologie de Cheikh Al-Albani rahimahullah. Il te dit, voilà, Ghuraba, leurs caractéristiques, on va utiliser trois hadiths. Regarde les muhadiths sunnis. Il va te dire, les caractéristiques, on peut l'amener de notre tête. Trois hadiths, trois riwayats qui vont nous amener leurs caractéristiques. Yani, asadun fi sunna, Cheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Il ne rigolait pas dans la sunna, Cheikh Al-Albani rahimahullah. Il est rapporté, un de nos mâchirs nous a raconté que Cheikh Al-Albani, une fois, il était à l'université de Médine et il y a un cheikh qui faisait une conférence sur un hadith. Et Cheikh Al-Albani, il était assis. Et le hadith, il est daif. Et Cheikh Al-Albani, il n'a pas su résister. Hein? Il a reproché, il a dit, le cheikh, il a dit, c'est quoi le prénom du hadith? Il a dit, Samiyuk. Parce que le cheikh, il s'appelle Atiya. Et la personne de la chaîne transmise qui était problématique, il s'appelait Atiya aussi. Il dit, Samiyuk, celui qui a le même nom que toi. Qui va faire ça de nos jours? Sunna, il n'y a pas de à droite, gauche, sunna. Même si tu es un sunni, sunna c'est au-dessus de moi, au-dessus de toi. L'ilm. Ce n'est pas personnel, évidemment. C'est l'ilm. Est-ce que nous, on est capable de faire ça? Nous, des fois, pourquoi tu l'as fait nasiha? C'était dur. Je dis, tu ne peux pas faire ça. Un frère, il vient, il dit salam alaikum dans un groupe, et il dit salam alaikum à chaque personne. Je vais attendre quoi? Je vais attendre qu'il parte. Deux ans après, je vais lui parler, on lui envoie un paquet cadeau avec des chocolats pour lui dire smahli, il y a deux ans. T'as... Je comprends pas. Qu'est-ce... Je vais dire non, akhi, c'est pas la sunna. Et peut-être c'est une tarbiya pour les gens qui sont là autour. Bien sûr, hein, que si lui, il a fait le mukhalafa comme ça, tu lui dis gentiment, tu dis zak la khair pour le salam, mais la sunna, c'est de faire un salam, et après, tu peux faire la main de chaque personne. Donc la sunna, c'est de dire salam alaikum. C'est pas salam alaikum, salam alaikum, salam alaikum, salam alaikum. C'est un maqam ta'lim peut-être aussi. Surtout si tu es quelqu'un considéré comme un oustad ou un talib, etc. C'est peut-être là, c'est bien de parler justement. Donc il dit le premier hadith qui est dans les caractéristiques du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Unasun salihun qalilun fi unasin kathirin. Man ya'sihim akhtar min yuti'uhum. Il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est la première caractéristique des Ghuraba qu'on cite ici, ce sont peu de gens vertueux parmi de nombreux gens. Ceux qui leur désobéissent sont plus nombreux que ceux qui leur obéissent. Ceci est l'une de leurs caractéristiques ma'nawiya, immatérielle, religieuse. Comme il y a aussi des caractéristiques matérielles, on peut même dire pour certains, géographiques. Comme les étrangers lorsqu'ils émigrent d'un pays à l'autre. Vous avez compris pourquoi je dis que ça peut-être vous toucher personnellement maintenant. Les étrangers, lorsqu'ils émigrent d'un pays à l'autre, personne ne les y connaît. Ils sont rejetés, délaissés. Donc ils sont ghuraba. De même, ceux qui sont cités dans le hadith, dans ce hadith, sont délaissés dans le sens religieux, eux. Et être vertueux, il a deux sens. Il y a On parle de salah. Ici, il y a un salah dans la croyance et l'autre dans les comportements et la pratique. Fil adab ou l'amal. Beaucoup de gens pensent à ce dernier sens. Ils pensent quand ils pensent d'être vertueux qu'au côté adab et amal, etc. Mais ne pensent pas au sens de la croyance dans laquelle le caractère de se retrouver tel un étranger est plus fort. Tu peux te retrouver étranger dans l'aqida plus fortement que te retrouver étranger dans l'amal et dans l'adab. Et c'est là-bas, c'est l'aqida. Ceux qui leur désobéissent sont plus nombreux que ceux qui leur obéissent, dans leur croyance d'abord. Et c'est la base dans la prédication. On commence par la croyance dans la prédication. Puis ensuite, au sujet de leur comportement, puis leurs actions. Ils sont donc étrangers en tout au sein de cette société. Les gens s'opposent à eux, et leur désobéissent, et ne sont pas obéis. D'ailleurs, Cheikh Al-Albani, il dit... Regardez l'ajr al-azim. Là, on rentre dans le domaine de la récompense maintenant. On a parlé dans le titre, la récompense. Ce petit nombre de gens, il est opportun de rappeler, min al-munasib an udhakkir, qu'ils ont la récompense de 50 martyrs, 50 shahids. Car le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit dans certains hadiths authentiques qu'il y aura des gens étrangers à la fin des temps qui auront la récompense de 50. Lahum ajru khamsin. Encore une fois, sahaba, toujours harisin al-khair. Ils ont questionné le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, 50 de parmi nous ou de parmi eux? Il répondit, non, de parmi vous. Ils auront donc la récompense de 50 parmi les martyrs des compagnons. Et si vous avez écouté ces hadiths, vous connaissez sûrement ces hadiths sur les 50. Vous n'avez jamais posé la question pourquoi? Revenez le roi là-bas. Regarde, écoute. Cette récompense est en raison du ratio de peu de gens au sein de beaucoup de gens. Qui est une des caractéristiques des roi là-bas. Il dit, alayhi salatu wassalam, ça c'est l'explication du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car vous trouvez beaucoup de gens qui vous portent assistance sur la vérité. Ansara. Antum tajidouna ala al-haqi ansara. Au kumaqa sallallahu alayhi wa sallam. Et eux ne trouveront pas des gens qui les assisteront sur la vérité. Deuxième caractéristique, deuxième hadith. الذين يصلحون ما افسد الناس من سنتي من بعدي. Ceux qui réforment ce que les gens ont perverti de ma sunna après moi. Ils appellent à faire revivre la sunna et à faire mourir la bid'a. À une époque où les réalités, les haqa'iq, sont inversées. Et donc la sunna est considérée comme une bid'a et la bid'a est considérée comme la sunna. Ils s'opposent à des bid'a. Et les gens leur disent, vous entendez, on peut faire, chacun lève la main, celui qui a déjà entendu ça. Vous vous opposez au dhikr. Lève la main, si j'ai entendu ça, en faisant un sihah par rapport au dhikr, comment il est fait, etc. Vous vous opposez à la qira'at du Coran. Vous n'avez jamais entendu celle-là? Tu me kathabouch le Coran. Carrément, on n'aime pas le Coran. Subhanallah, l'adim. Il y a parmi nous, c'est des hufad ici. Hein? Non, on n'aime pas le Coran, on n'aime pas le Coran. Par rapport au fait de lire le Coran d'une certaine manière qui n'est pas légiférée. Ah, vous n'aimez pas le dhikr. Par rapport au fait de mettre en garde sur le fait de faire le dhikr d'une manière qui n'est pas légiférée. Derrière, il y avait un chauffeur de taxi, il avait dit à Cheikh Rabi, il a dit de Ntoumal Wahhabi, vous n'aimez pas le professeur. Il a dit à Cheikh Rabi. Cheikh Rabi, il a dit qu'est-ce? Cheikh Rabi a consacré toute sa vie à défendre la sunna du prophète, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, j'ai deux fils, de deux femmes différentes, je les ai appelés tous les deux Mohammed. Qu'est-ce que tu dis, Nta? Ils disent, ils s'opposent à des bid'a, les gens leur disent, vous opposez au dhikr, la récitation du Coran, etc. Alors qu'ils ne s'opposent pas à des réalités religieuses. D'ailleurs, ces bid'a-là, par exemple, le fait de dhikr en jama'a, ou le fait de faire le Coran en jama'a, ça c'est ce qu'on appelle parmi les bida' al-idafiyya. Et c'est là où il est souvent avec les gens, le premier avec les gens, parce que l'asli il est légiféré, mais la manière elle est innovée. Donc toi tu viens dire à la personne, il croit que tu attaques le dhikr, alors que toi tu n'attaques pas le dhikr. Toi tu lui fais un sihah sur la manière dont le dhikr est fait. Car la manière aussi d'être légiférée, comme le fait de réciter le Coran aussi d'être légiféré. La manière d'être légiférée, de réciter le Coran. Comment ils appellent ça? Le Coran ou binarmatin wahidatin. Le fait de lire le Coran en commun avec une seule voix. Ça, ça n'existait pas chez les salafs. Les ulémas autorisent un seul cas, c'est pour ta'lim. Quand le shir récite et les enfants, par exemple, hein, ils récitent à l'unisson. C'est le seul cas que je connais, moi, Allah, alim, que le mashir les autorise. Et alors qu'ils ne supposent pas des réalités religieuses, les gens de la sunna, le rouraba, mais à des mauvaises conceptions de la religion qui, au fur et à mesure du temps, sont devenues partie intégrante de la religion pratiquée par ces gens qui pratiquent ces innovations religieuses. Donc lui, il l'a fait, ça fait partie de son din. Quand tu viens lui faire nasiha, tu viens lui reprocher ça, essayer de faire mourir la bid'a, faire revivre la sunna, là, il croit que tu t'attaques à l'islam, que tu t'attaques à la sunna. Parce que pour lui, la bid'a, c'est devenu une sunna. Et la sunna, c'est devenu une bid'a. Les vertueux deviennent alors étrangers lorsqu'ils appellent à la sunna et à la pratiquer et avertissent contre les innovations religieuses et appellent à les délaisser. Troisième caractéristique, troisième hadith. La troisième version du hadith, elle, cette troisième version du hadith, elle ne s'applique qu'à certains parmi ces étrangers, pas à tous. Ce sont peu de gens de tribus différentes. Nuz'a' min al-qaba'il. Mais Cheikh Al-Albani l'a expliqué nuz'a' comme étant jam'u nazi'. Et c'est le nazi', c'est celui qui a quitté son pays. C'est-à-dire qu'il a fait sa hijra de ce pays. Qu'il a quitté espérant la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car il se trouvait dans une société où il ne pouvait pas pratiquer la sunna, ni appeler les gens à la sunna. Et donc il a immigré comme hajara, al-awwalou. Comme ont immigré les premières générations d'immigrés, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, en quittant la Mecque pour aller à Médine afin de pouvoir pratiquer les rites religieux, les rites légiférés. Il dit, وَلَا بُدَّ لِلْتَارِيخ أَنْ يُعِيدَ نَفْسَهُ. Il est obligatoire à l'histoire de se répéter. Et donc le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a informé que parmi les étrangers, il y aura ces nuzza', c'est-à-dire ces muhajiroun, qui quittent leur pays afin de pratiquer l'islam authentique basé sur les livres d'Allah Azza wa Jal et la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ces étrangers-là, ils ont regroupé le fait de se réformer eux-mêmes, d'être vertueux eux-mêmes et de réformer autrui. Et pour certains d'entre eux, ils ont même fait la hijra pour pouvoir pratiquer cela. Leçon générale en cela, contre la description du caractère étranger, le ghurba, c'est ce qui était appelé clair aux yeux et au regard du début de l'islam et à sa fin. Et ça, c'est la parole de l'imam Shatibi, rahimahullah ta'ala, mais on a dit qu'on n'a pas trop le temps de continuer, sinon ça, on est parti pour de nombreuses pages, etc. Mais peut-être, inshallah, dans un dars prochain. Combien il reste pour l'Aïcha? Wallahu alam wa subhanaka wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.